L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Voilà, les 90 ans d'Elisabeth. On vous en parle aussi sur BFM Business, au travers évidemment de sa fortune, justement. On va faire le point avec les meilleurs experts pendant une quarantaine de minutes. Et puis, juste après, une bataille royale aussi. Bah oui, celle entre Conforama et la FNAC pour mettre la main sur Darty, avalanche de surenchères, justement. Jusqu'où ça va s'arrêter? On ouvrira le dossier donc tout à l'heure aux environs de 20h avec nous, bien entendu, celle qui connaît très très bien l'histoire du Royaume-Uni, Sophie Loussouarn, spécialiste de la Constitution britannique. Elle est professeure à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle connaît également toutes les têtes couronnées, et pas uniquement évidemment la famille royale de Grande-Bretagne. Vincent Mélan, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Point de vue. Et puis Philippe Moreau-Desfarges, il est chercheur à l'IFRI et vous propose donc en livre de poche « La mondialisation pour les nuls », c'est son tout dernier opus. Voilà, c'est l'un de mes complices de Good Morning Weekend le samedi matin à la radio à 8h. Alors, Elisabeth, hein, elle règne depuis maintenant plus de 64 ans sur le trône britannique. Oh, elle a côtoyé tous les plus grands du XXe siècle. Elle sera même encore là sûrement après le Brexit ou pas. Je vois, on verra évidemment le 23 juin ce qui va se passer. Allez, retour sur un morceau de l'histoire de l'Europe du XXe siècle avec Jean-Baptiste Huet.
Elisabeth II voit le jour le 21 avril 1926, elle fait partie de la famille royale des Windsor. Son père est le roi George VI et sa mère Elizabeth Bowes Lyon. Elle est éduquée dans la plus pure tradition britannique. L'enseignement a lieu à la maison, cours d'histoire, élocution, littérature, musique. Elle est décrite comme une petite fille joviale, sensée, bien élevée. À l'origine, Elisabeth était troisième dans l'ordre de la succession pour le trône britannique, mais les événements de la vie vont bientôt la précipiter sur le devant de la scène. En 1940, le roi Royaume-Uni est entré dans la Seconde Guerre mondiale depuis un an. Elisabeth, du haut de ses 14 ans, réalise sa première allocution radiophonique pour soutenir les enfants évacués et les troupes.
And when peace comes, remember, it will be for us.
Elle participe les années suivantes à l'effort de guerre en rejoignant le service militaire des femmes de l'armée britannique. Elle y apprendra notamment la conduite et la mécanique. Après la guerre, en novembre 47, Elisabeth épouse Philippe Mountbatten, le duc d'Édimbourg, qu'elle aimait depuis l'âge de 13 ans. Le mariage est célébré en grande pompe. Dans les années 50, la santé de son père, le roi George VI, se détériore. Il meurt en 1952. Elle devient reine dans la foulée et quelques mois plus tard, c'est le couronnement à l'abbaye de Westminster, une cérémonie retransmise pour la première fois à la télévision. Au cours de ses 63 ans de règne, Elisabeth II traverse les époques. Elle assiste à la transformation du monde, de la crise du canal de Suez à la fin des années 50, en passant par la décolonisation dans les années 70. Elle est même l'une des premières à envoyer un mail en 1976. Elle a croisé les plus grands de ce monde, de John Fitzgerald Kennedy, en passant par Hirohito, Charles de Gaulle, Nehru. Et sous son règne se succèdent en Grande-Bretagne 13 premiers ministres, Winston Churchill, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, à qui elle reprochait d'avoir aboli la chasse à cour, et aujourd'hui David Cameron. À 90 ans, Elisabeth II est toujours très appréciée par ses sujets. Elle est définitivement une icône mondialement connue, la seule à pouvoir s'offrir la protection de James Bond, alias Daniel Craig, qu'elle accompagne même en parachute.
C'était magnifique, hein, ces Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'était la cérémonie d'ouverture avec la reine qui saute en parachute. Ah, c'était pas elle, c'était une réplique. Bon, c'est pas grave, j'y ai cru hein, sur le moment, bien sûr. Elle a envoyé un mail en 1976, Elisabeth II, complètement dingue. Vous le saviez, ça, Sophie Loussouarn, hein, qu'elle a envoyé un mail hein, en 76. Je sais pas ce que...
Mais elle a été la première souveraine à utiliser autant les réseaux sociaux. Premièrement, elle a créé un site internet pour la famille royale, royal.gov.uk, et elle a utilisé les réseaux sociaux. Elle a un compte Twitter.
Ouais, alors elle s'en sert énormément. Qu'est-ce que ça représente, la reine aujourd'hui, au Royaume-Uni, en 2016. C'est un ciment, donc, dans
voilà,
le pays.
C'est un roc de la nation britannique. C'est un élément de stabilité, de continuité. C'est un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Finalement, elle rassure la nation britannique en ces temps de grandes incertitudes, à la veille du référendum du 23 juin, qui décidera de l'avenir du Royaume-Uni pour une génération. Et l'enjeu est très grand. Alors, la reine n'en a pas du tout parlé, ben non, puisqu'elle ne se prononce pas en matière de politique.
Elle n'a jamais fait la moindre interview voilà, en exactement. 64 ans de règne.
Elle a simplement dit une chose à la veille du référendum en Écosse, à la sortie de la messe à Balmoral, pour dire aux Britanniques que l'enjeu serait grand.
Ouais. Simon aussi face au régionalisme, hein, qui exactement. Sont de plus en plus vifs, hein,
oui,
Sophie
oui,
de Soir,
oui.
Bien entendu.
Alors évidemment, ce référendum posera la question à nouveau d'un nouveau référendum sur l'Écosse si les Britanniques votaient pour la sortie. Mais aujourd'hui, les sondages donnent le maintien dans l'Union européenne à 52%.
Bon, Vincent Mélan, rédacteur en chef de Point de vue, la royauté britannique, elle a encore de beaux jours devant elle. Elle n'est pas contestée fondamentalement.
Même pas infinie.
Il n'y a même pas une poignée de républicains
qui
s'y
adhèrent. Il y a 13%.
Si. Combien
13%.
13%.
Il y a quand même The Economist qui est un grand hebdomadaire et pour l'abolition de la royauté.
Ah, carrément.
Vous avez
carrément.
Corbyn est pour l'abolition.
Attendez, chacun son tour. Allez-y, Vincent Mélan.
C'est vrai qu'il y a sûrement des abolitionnistes. Cela dit, vous savez, moi je suis très pragmatique là-dessus. Je pense qu'il est aussi sot de vouloir abolir la monarchie en Grande-Bretagne que de vouloir abolir la République en France. Je pense que ce qui est important, c'est que ces pays soient en démocratie. Le reste, c'est du débat d'idées, parce que de toute façon, il n'y a pas de différence fondamentale dans la place du citoyen dans ces deux pays. On est quand même bien en Angleterre, on est bien en France. Pour revenir un petit peu avec ce que vous disiez, moi je pense que l'un de ces points constitutionnels, enfin pas constitutionnel, mais un de ces points symboliques très forts, c'est que la stabilité de ce régime en Grande-Bretagne lui permet quand même un renouvellement perpétuel que bien des républiques peuvent lui envier. Parce que regardez en France, tout ce qui se passe, chaque fois qu'on veut réformer le moindre truc, tout le monde est dans la rue. Je veux dire, en Grande-Bretagne, je pense que l'élément rassurant dont vous parliez et stabilisateur qu'est l'institution monarchique incarnée par cette reine, fait que de toute façon, on a beaucoup plus de liberté à l'intérieur du système, beaucoup plus d'audace quelque part. Parce qu'on sait que la structure ne bougera pas. Elle est intangible. Donc, quelque part, on peut se permettre d'explorer des choses. C'est le côté aventurier des Anglais. Nous, chaque fois qu'on a quelque chose, de toute façon, il y a un refermement en France. On serre les épaules comme ça, on se dit non, on a peur, on n'y va pas. Parce que l'exécutif est quand même beaucoup moins stable. On a un exécutif qui est partisan. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent, hein, encore une fois. Mais je pense que ça explique en quoi ce rôle est important. Et il est d'autant plus important qu'elle est âgée. Parce qu'aujourd'hui, elle a un pouvoir d'influence auprès du Premier ministre qui est beaucoup plus important que celui qu'elle avait quand elle avait 26 ans.
Elle a donc un rôle politique, Philippe Moreau-Desfarges ?
Oui, non, je crois que la question quand même qui mérite d'être posée, c'est est-ce que la monarchie britannique est invulnérable ? Et moi, je pense que la reine ne le dirait pas, mais je pense que la reine sait que cette monarchie est vulnérable. Et pourquoi elle le sait ? Parce que ce qui est important, c'est ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, il y a eu la crise de 1938. Elle avait donc 12 ans. Et en 1938, Édouard VIII a abdiqué. Ça s'est pas bien passé, ça a été une affaire très difficile. Heureusement, Georges VI a vraiment, comme le montre, vous savez, le fameux discours du roi. Discours d'un roi a réussi à prendre sa place. Mais il y a une vraie inquiétude sur l'avenir de la monarchie. L'année 38 a été une année dangereuse. Donc je pense que la reine, à la fois, incarne la permanence de la monarchie britannique, mais, si vous voulez, ce que vous dites est important, mais il faut quand même être conscient que je pense que la reine elle-même savent que toute institution humaine est quand même vulnérable.
Je
vais juste ajouter un petit truc par rapport à ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Ouais. Cela dit, je voudrais quand même vous faire remarquer que la monarchie britannique a tenu en 1940. La République française s'est vautrée lamentablement et elle a disparu.
Ils n'ont pas été occupés.
Occupés, hein. Oui.
Non, mais ils ont résisté.
Oui.
Oui.
Et la reine est restée à Londres.
Oui, bien sûr. Non.
Oui, en fait, la monarchie britannique, d'abord, existe depuis le IXe siècle. Elle a été interrompue seulement de 1649 à 1660. Ouais. Après, la restauration de Charles II a rétabli la monarchie. Et puis, la Révolution glorieuse a fait évoluer la monarchie d'un système de droit divin vers une monarchie constitutionnelle où le monarque réduisait ses pouvoirs et le Parlement gardait la souveraineté nationale. C'est très important parce que la monarchie britannique a toujours su se moderniser et la reine a modernisé le protocole. Elle s'est conciliée tradition et modernité. Oui. Et on l'a vu au moment d'ailleurs de son couronnement. Churchill s'opposait à ce que son couronnement soit diffusé à la télévision et elle a dit « This is my coronation ». Et son couronnement a été diffusé à la télévision. Et elle a utilisé les nouveaux moyens technologiques de communication. Elle a su faire entrer la télévision au palais de Buckingham. Les cérémonies de vœux de Noël sont diffusées à la télévision. Et donc maintenant, les réseaux sociaux.
Oui, alors, les réseaux sociaux et la fortune d'Elisabeth de...
Ah oui, alors, ça, c'est une vraie femme d'affaires.
Oui, vous le dites clairement, c'est une femme d'affaires. Parce que, franchement, en travaillant sur le dossier, j'ai l'impression que c'est un enchevêtrement de possessions, tout cet hétéroclite, dont on ne voit jamais le bout, on tire un bout, et hop, il y a un autre bout qui arrive. Alors, il n'a pas l'air d'accord, Vincent, mais non, mais allez-y.
Si,
vous êtes d'accord
avec moi. Non, je suis d'accord, mais c'est assez simple. Vous avez les biens privés, les biens de la couronne, et entre les deux, il y a une zone... de biens dont on vous dit que c'est pas des biens privés, mais c'est quand même attribué à la reine, revenu et usufruit. Moi, je pense, si vous voulez, que la reine est beaucoup plus riche que ce qu'on dit.
Alors.
Et je pense que, de toute façon, la zone qui est au milieu, c'est des domaines, ce sont des... Le duché de Lancastre, dont elle reçoit les revenus tous les ans, ça représente quand même 18 millions de livres sterling, c'est quand même conséquent. Le duché de Cornouailles, dont le prince de Galles récupère les revenus, c'est 20 millions de livres sterling. Elle paye pas de droit de succession, ce qui est quand même l'impôt le plus important quand on veut préserver une fortune. La liste civile a été abolie en 2012. Était de 8 millions de livres sterling. On lui a octroyé une espèce de don général de 30 millions de livres sterling, dont on précise que c'est 15% des revenus de la couronne. Tout ça, c'est des avantages en nature. Et vous avez sa fortune privée,
qui est sans doute... Mystère.
Quelques centaines de millions d'euros de livres. Ce n'est pas le plus important. Mais c'est la zone entre les deux. Domaine, ces deux duchés, les bijoux, les tableaux, tout ça... Ça vaut des milliards et on ne sait pas du tout qui est le propriétaire de tout ça.
Oui, parce que quand on regarde le patrimoine de la couronne, on nous dit le patrimoine de la couronne, c'est l'un des plus importants du Royaume-Uni. Alors on met une centaine de milliers d'hectares de terre, des fermes, des mines, des immeubles londoniens à l'intérieur de Londres, bien sûr.
Dans le quartier de St. James, essentiellement.
Tout juste, vous avez raison, Sophie. Des haras, des tableaux, des bijoux de luxe, des timbres, des photographies.
Je vous arrête. Alors, les timbres, les bijoux.
C'est qui ça?
Les haras. Alors les haras, c'est privé, déjà.
Donc c'est elle, c'est sa passion, son
les timbres. Ouais. C'est privé.
Oui.
Les bijoux, il y a une partie privée, une partie qui est dans cette zone qu'on appelle la Royal Collection, qui est quand même très très vague. Alors, les joyaux de la couronne à la Tour de Londres, ça c'est public.
On n'y touche pas, là. On n'a pas le droit de les vendre. Hein.
Mais tout ce qui est dans cette zone un peu grise...
Quand même, on dit que le patrimoine quand même pesait en 2015 14 milliards d'euros. Je parle en euros, évidemment convertir plus facilement. Record, donc. Bon, ça appartient à qui, ça c'est pas perso, c'est le domaine
non,
public.
Non, c'est la couronne. C'est-à-dire que le palais de Buckingham a été acheté...
C'est flou, quand on voit la tête de Vincent Mélan, apparemment...
Le palais, c'est pas le plus grave, parce que c'est pas un asset qui rapporte de l'argent. Mais si vous voulez, la reine, elle possède 2000 dessins de Léonard de Vinci dans la Royal Collection.
Voilà. Alors, vous avez les Rembrandt.
Léonard de Vinci, ça vaut 20 millions d'euros en vente aux enchères, elle en a 2000.
Et chaque année,
elle ne peut pas les vendre. Mais imaginez qu'un jour la monarchie soit supprimée. C'est quand même des choses qui ont été achetées par ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a quand même un droit de propriété qui existe, qu'elle peut opposer. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a des précédents qui existent. Vous avez à l'heure actuelle en Europe une famille anciennement royale, qui est la famille royale de Bavière, qui a perdu son trône en 1918. À la suite de cette perte de trône, il y a eu un arrangement entre l'État et la famille qui concernait justement cette zone de biens mi-privé, mi-public. Et on a décidé que tout ça était inaliénable, mais qu'on allait verser des revenus à cette famille en compensation de l'utilisation des biens. Les revenus pour l'année dernière ont été publiés pour la première fois. Le duc de Bavière, qui est le chef de la maison royale de Bavière, touche tous les ans 17 millions d'euros du gouvernement, de cette fondation de statut un peu étrange. Donc,
la partie.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre ses biens.
Non, mais ça veut dire que ça ne vaut pas rien.
Oui, oui.
Sophie Loussouarn, quand même, bon, on va essayer de faire le tri entre le patrimoine de la couronne, entre ses propres possessions, sa fortune personnelle, et puis l'argent qui lui est alloué justement par le trésor public britannique pour, eh bien, pour son palais, pour Buckingham, pour ses majordomes, je ne sais quoi, ses secrétaires, enfin tout ça. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant de voir avant tout, c'est que la reine a accepté pour la première fois de payer l'impôt sur le revenu.
Ah oui.
Donc ça, c'est une nouveauté quand même.
Une quinzaine d'années à peu près.
Depuis 97.
Oui, c'était c'était la fameuse Annus Horribilis.
Voilà, exactement. Voilà, exactement.
Où là, quelque part, il y a eu une espèce de trouble autour d'Elisabeth qui n'aimait pas Diana.
Oui.
Et pour finalement montrer un joli visage, elle a dit « je vends mon yacht ».
Exactement. Mais c'est Tony Blair qui lui a demandé de vendre son Royal Britannia auquel elle tenait tant. Donc deuxièmement, elle a accepté de financer elle-même les réparations du château de Windsor suite à l'incendie. C'est quand même très très novateur. Alors évidemment, il y a les terres. Alors pour revenir ensuite elle a accepté d'ailleurs la transparence sur ses finances. Donc il y a une agence de contrôle des finances royales. Elle a accepté aussi que la liste civile ne soit pas réévaluée depuis 20 ans.
La
liste civile a été abolie en 2012.
Il y a 5 ans.
Oui, non, mais c'est revenus qui lui sont.
La liste civile était de 8 millions d'euros.
La liste civile, c'était l'argent qui
était était versé pour l'entretien des palais et le budget des réceptions. Elle a été abolie en 2012, supprimée, et on lui a mis en place une allocation de 31 millions de livres sterling, ce qui correspond quand même à 4 fois le montant de la liste civile. C'est quand même une augmentation conséquente. Mais c'est pas de l'argent qu'elle utilise pour faire ses courses. Hein. C'est l'entretien des palais, c'est l'entretien des bâtiments publics, c'est le budget des réceptions de chefs d'État. C'est pas plus compliqué que le budget d'entretien de la présidence de la République.
La fortune d'Elisabeth II, elle est populaire ou pas
la reine est très populaire.
Oui, mais sa fortune, est-ce qu'on dit pas un moment dans ces années
je crois pas que le Royaume-Uni connaisse cette culture de la jalousie que connaissent d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils sont très admiratifs de leur reine, qu'ils approuvent à 80%. Elle est aussi populaire aujourd'hui qu'elle l'était au début de son règne, même peut-être plus aujourd'hui qu'au début de son règne, parce qu'elle est la mère et la grand-mère de la nation. Elle est une image rassurante.
On peut lui passer ça, oui.
Oui.
Monarchie, vous avez l'impression, Philippe Moreau-Desfarges, qu'elle fait preuve de transparence, cette monarchie, autour des comptes de la famille royale?
Je serais plus prudent. Elle est obligée quand même de faire un certain devoir de transparence. Je pense que, il y a sûrement une certaine opacité. Ce qui est vrai, c'est que elle a la chance d'être entourée d'un grand respect et qu'il y a des choses qui ne sont pas évoquées. Même si on prend, je pensais à ce hebdomadaire très important qui est l'Économiste, qui est un hebdomadaire qui est pour l'abolition de la monarchie, alors que son fondateur était un monarchiste. C'est un bagot. Néanmoins, ils n'osent pas parler de certaines choses. Je n'ai jamais vu un seul article sur les finances de la reine. Donc, il y a quand même, elle bénéficie d'un. Mais c'est vrai que ce qui a été dit est très juste. La reine symbolise le Royaume-Uni, la permanence du Royaume-Uni. En plus, attendez, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle est reine d'autres États.
Oui, elle est reine de 16 pays.
De 16 pays. C'est quand même une chose assez.
Oui. Vous savez, quand il y a 54 pays dans le Commonwealth et elle est reine de 15 ou 16 pays, dont l'Australie, le Canada
et la Nouvelle-Zélande.
Et ça lui rapporte ou pas? Non.
Non, mais c'est le rayonnement du Royaume-Uni, voilà.
Elle en perd un peu de temps en temps en ce moment quand même.
Oui.
C'est moins admis,
c'est moins
partie de l'évolution.
Oui.
Mais moi, je suis un petit peu moins indulgent que vous. Je trouve qu'il y a une vraie opacité. Il y a une vraie opacité, et c'est justement un domaine sur lequel elle communique très peu. Elle a une vraie protection là-dessus. Vu que de toute façon, elle n'a pas de droit de succession, il n'y a pas d'inventaire à faire, il n'y a pas de succession. Quand sa mère, la reine-mère, est morte, elle était légataire universelle. Tout a été transmis. On a su qu'il y avait un Monet dans le lot. Il est passé comme ça. Mais très bien, moi je trouve ça très bien.
On dit que la Maison Royale, c'est le seul organisme qui ne peut pas être audité par le National Audit Office, c'est-à-dire la Cour des comptes britannique.
Ce qui ne peut pas être audité, c'est ses comptes privés.
Privés, d'accord.
Et en fait, il y a une vraie opacité. Alors, sur les comptes publics, les dépenses du palais, tout est open, tout est public, tout est audité. Sur les comptes du duché de Lancastre, ce que je citais tout à l'heure, tout est audité. Sur cette zone grise dont je vous parlais tout à l'heure d'objet, ça fait l'objet d'exposition, c'est utilisé. Ce qui est totalement opaque, c'est ses finances personnelles, sa fortune, ses titres. On ne sait que deux choses. Elle est propriétaire de deux domaines, Balmoral et Sandringham.
Ouais. Oui, ça, c'est personnel. Sandringham a été acheté par le prince Albert pour ses enfants. Voilà. Et Balmoral est son domaine en Écosse auquel elle tient tant et où elle passe ses vacances.
Non, non, il y a quand même
Philippe Moreau Desfarges.
Il y a quand même une vraie vulnérabilité sur cette institution. Voilà une institution, ce n'est pas moi qui l'ai souligné, où il y a une opacité sur une partie des finances. Et il est clair que si un jour le voile est déchiré, la déchirure sera très grande. Pour le moment, c'est vrai que personne n'ose toucher à la reine. C'est vrai qu'elle est, considérée et elle a de la chance. Et elle-même a une très haute conscience de son rôle. Hein. C'est quelqu'un qui est respecté, qui ne supporterait pas de ne pas être respecté. Donc là, il y a quelque chose qui est impressionnant, mais il ne faut pas qu'il y ait la moindre fêlure. Il ne faut pas la moindre fêlure.
Au final, moi j'essaie de comprendre.
Ce qu'avait redouté Tony Blair au moment de la mort de Diana.
Le patrimoine de la couronne qui appartient donc globalement à la communauté publique, je dis globalement, bon, on parle d'une dizaine de 10, 12, 14 milliards d'euros. La fortune de la reine en tant que telle, la reine, elle pèse combien? Qu'est-ce qu'elle possède en propre, la reine? On peut dire que la reine, c'est une fortune de 300, 400, 500
N'importe
millions
quoi,
d'euros.
Entre 300 et 1 milliard d'euros.
Ah, donc on sait.
Parce que, encore une fois, on sait qu'elle a un portefeuille boursier. On ne sait pas quel est son montant. Je suis assez d'accord avec vous sur l'opacité. Je ne pense pas que les conséquences soient graves, parce qu'il n'y a pas de malversation là-dedans. Si un jour les finances privées de la reine sont découvertes, on ne va pas dire qu'elle a volé de l'argent. On va peut-être être surpris de l'ampleur ou de peu d'ampleur. La seule chose qui pourrait menacer la fortune de la reine, il n'y a qu'une seule chose, ce sont les droits de succession. On n'en a jamais payé dans cette famille. C'est la seule famille royale qui n'en paye pas. C'est la seule manière de transmettre un patrimoine de génération en génération sans qu'il diminue. Ce patrimoine n'a fait que grossir.
Ouais, le classement du Sunday Times, qui fait un peu autorité, style le classement de Forbes, qui place Elisabeth II au 302e rang des fortunes britanniques. Ça veut dire que ce n'est pas la personnalité la plus riche du Royaume-Uni. Fortune évaluée à 430 millions d'euros. Et elle est loin derrière un certain nombre de milliardaires, notamment des oligarques russes.
Est-ce que ces oligarques russes pourraient avoir le train de vie qui est là, avoir des tableaux de maîtres extraordinaires qu'on change tous les jours comme on veut, vivre dans une maison qui s'appelle Buckingham Palace, qui fait 450 pièces avec le plus grand jardin privé de Londres, passer ses week-ends à Windsor, qui est le plus grand château habité d'Europe, passer ses week-ends en hiver à Sandringham, qui est une propriété colossale, qui fait quand même 20 000 hectares, et passer ses vacances d'été à Balmoral en Écosse. Personne ne peut s'offrir ce train de vie aujourd'hui. Parce qu'il y a une zone grise, encore une fois, dont on ne sait pas qui en est propriétaire.
Mais alors, je rappellerai quelque chose quand
même. C'est très bien.
C'est qu'à l'âge de 21 ans...
Révoltez-vous.
C'est moi qui ai l'air d'être le révolutionnaire.
Sûrement. On le rappelle, c'est le rédacteur en chef de Point de Vue. Il est en train de tuer son business. Sophie, un mot, et puis on se retrouve dans un instant.
À l'âge de 21 ans, la reine a promis de se dévouer corps et âme pour son pays. Et elle a servi son pays depuis 63 ans et 7 mois. Et quand elle était jeune, elle était infirmière. La famille royale n'a pas quitté Londres pour aller justement se réfugier à Windsor et pour échapper aux bombes qui menaçaient Londres.
Vous allez nous faire pleurer, donc cette fortune est méritée, c'est ça, Sophie Lutwarn?
Mais moi je suis d'accord avec elle, la fortune est totalement méritée. Je ne la remets pas en question.
C'est une fortune qui a été mise sur place sur le tard, dans les 18e, 19e.
Ah, non, même pas, 19e. Non. La reine Victoria n'avait rien.
Ah, la reine Victoria,
zéro. Elle a hérité des dettes de son père, qui étaient de 50 000 livres sterling.
Oui, mais la collection de peinture de la couronne remonte à Henri VIII, qui était un grand collectionneur.
Ils ont beaucoup vendu quand ils ont décapité Charles Ier, quand même.
Bon, à tout de suite les amis, God Save the Business, donc on parle d'Elisabeth II ce soir, oui, il y a un peu de temps, c'est drôle, il y a du conflit, il y a de la controverse, on parle d'Elisabeth II, c'est jamais le cas quand on parle de, c'est rien, on verra ça tout à l'heure pour Darty, pour Conforama, pour la BCE, à tout de suite sur BFM Business avec les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, on n'oubliera pas, évidemment, ce soir, la bataille, cette escalade de surenchère entre la FNAC, entre Conforama, pour mettre la main sur Darty. Oh, depuis hier soir, mercredi, on en est quand même à 5 surenchères. On verra ça, on fera le point tout à l'heure à 20h. On continue évidemment avec un anniversaire aujourd'hui, les 90 ans de la reine Elisabeth II. Hein, oui, qui pèse lourd, justement, en millions, en centaines de millions, peut-être plus, milliards de livres, on verra. Parce que c'est vrai, c'est très compliqué, hein. Vraiment, il y a la couronne, il y a le patrimoine de la couronne, avec des terres, avec des peintures, des fermes, des mines, etc. On parle d'une quinzaine de milliards d'euros. Il y a la fortune de la reine en tant que telle, qui se compte en centaines de millions d'euros. Combien exactement? Alors officiellement 400, 500 millions, mais il y a toute la fortune personnelle. Alors là, c'est l'opacité la plus complète. Elle touche à peu près donc 50 millions d'euros pour ses petits besoins annuels, hein, c'est ça, non?
Oui, c'est
près,
ça.
Hein, c'est ça, Vincent Mélan,
ouais.
Rédacteur en chef de Point de Vue.
48 à peu près, oui.
48,
ouais.
C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'elle fait de son argent maintenant, Sophie Lussorne? C'est une bonne gestionnaire ou pas?
Ah, c'est une excellente gestionnaire. C'est même la gestionnaire de The Firm et, comme le dit son petit-fils, she is the boss. Donc, elle a
quel petit-fils, lequel?
William.
William, d'accord.
Oui, le fils du prince de Galles, donc qui est le deuxième héritier, enfin dans la ligne de succession. Puisque pour la première fois, nous avons trois rois qui attendent le trône. Le prince de Galles, Charles. Prince Charles, le prince William et le prince George.
George, c'est le petit. Hein,
le petit, oui, hein. L'arrière-petit-fils de la reine.
Il perd un peu, heureusement qu'on peut regarder ça, retrouver ça sur Point de Vue. Tiens, combien ça gagne au fait qu'il était William? Parce que là, on les voit tout le temps en permanence à la une de tous les hebdomadaires.
En fait, c'est le prince de Galles qui finance William et
Kate. William,
prince de Galles, il tient où?
William
William a hérité de 10 millions.
Chacun son tour, là. Vous.
William a une fortune personnelle qui est constituée de deux legs importants. Le premier leg, c'est celui qui lui a été légué par la reine mère, Queen Mum, qui a légué une partie de sa fortune à William parce qu'il serait le futur roi.
D'accord.
Le deuxième leg, c'est celui que lui a fait sa mère, la princesse Diana, quand elle est morte. William a touché sa fortune lorsqu'il a eu 25 ans. Mmh. Ça représente sans doute entre 25 et 30 millions de livres sterling. Ça laisse quand même de quoi revenir. Il est logé au palais de Kensington. Il est logé à la campagne à Hampner Hall, juste à côté de Sandringham, qui appartient à la reine. Les travaux ont été pris en charge principalement par le prince de Galles, qui lui reçoit annuellement à peu près 20 millions de livres sterling, qui sont les revenus du duché de Cornouailles, qui depuis que le monde est monde, est dévolu à l'héritier de la couronne britannique.
Bon, bah tout ça,
voilà. Tout ça
très simple. Bon.
Le prince de Galles paye un tout petit peu de droit de succession, d'impôt sur le revenu.
Oui, oui.
Et c'est lui qui détermine à chaque fois combien il doit donner.
Bon, eh ben comme ça,
qui est commode.
On y voit un petit peu plus clair. Je voyais de façon anecdotique que la couronne possède le droit sur la pêche au saumon dans la plupart des rivières d'Écosse, tous les crustacés sauvages côtes, et que la monarque, la reine, est propriétaire des animaux de la Tamise.
Le droit de la pêche au saumon, ça vaut très cher.
Ah bon?
Mais oui,
c'est pas
juste ça vaut très cher. Non, non, les cygnes, ça, on s'en fiche, ça vaut rien. Mais personne n'a envie de manger du cygne.
Non.
Mais le droit de pêcher le saumon dans les rivières d'Écosse, oui, ça se négocie. La journée de pêche, c'est un vrai commerce, un vrai business. Ça, ça vaut de l'argent.
Philippe Moreau d'Effort, j'étais.
Je crois qu'elle possède aussi une partie de Londres.
Oui, St. James, le quartier de St. James, qui est le quartier georgien.
Mais si vous voyez, quand on dit, bon, elle passe ses vacances à Balmoral, etc., c'est quand même une vie, il faut le reconnaître, ce qu'a dit Sophie, c'est que c'est une vie très contraignante. Hein. Elle est presque constamment en représentation. Oui, oui. Et je pense que les Britanniques ne lui pardonneraient pas si elle n'était pas en représentation constante. Donc, d'ailleurs, cette vie, semble-t-il, lui convient très bien.
Elle c'est a un été, engagement qu'elle a pris dès le départ,
oui,
quand elle est
venue. Oui, oui,
elle n'est
oui,
pas prête à indiquer.
Non, ce qui est plus difficile, non, Fabrice, ce qui est plus difficile, c'est pour la famille, si vous voulez. Le malheureux prince de Galles qui va attendre le trône indéfiniment, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on lui dit, bon, peut-être tu pourrais passer ton tour et donner le trône directement à ton fils, c'est quand même des positions pas faciles.
Bon, encore un mot sur la famille royale britannique, ce que je voudrais voir, qu'on voit également, parce qu'il y a d'autres monarchies en Europe. Il y a des principautés également, il y a des grands-duchés justement. On verra si ça pèse aussi lourd. Allez-y Sophie Lussorne, qui est avec nous, spécialiste de la Constitution britannique.
La reine Elisabeth est un petit peu comme la reine Victoria, qu'elle a dépassée en termes de longévité. Et le règne du prince Charles sera très court, comme celui du roi Édouard VII. Sera une période de transition en attendant le règne du prince William. Mais le prince William aura eu la chance de pouvoir avoir une vie familiale sans être souverain. Et ça, c'est quelque chose que la reine n'a pas pu avoir, puisqu'elle est devenue reine très jeune, lorsque le prince Charles avait 3 ans. Il voyait sa mère répéter avec la couronne pour le couronnement en 1953. C'est très difficile pour un enfant d'être privé de l'affection de sa mère.
Vincent Mélan, point de vue.
Mm-hmm.
Allez-y, non, je pensais que vous me faisiez signe pour...
Non, je voulais vous dire, il y a une anecdote que je cite souvent parce que ça me vient à l'esprit. C'est très compliqué, vous avez raison de comprendre cette fortune. Moi, il y a un symbole que je donne toujours. Il y a quelques années, elle a fêté ses 60 ans de règne. Donc, c'était très impressionnant, 12, ouais. Très populaire. Mmh. Elle est apparue, il y a eu un service d'action de grâce, etc. Sur son tailleur, elle avait une petite chose qui brillait ici, qui s'appelle une broche, sur laquelle il y a deux diamants qu'on appelle le Cullinan No. 3 et le Cullinan No. 4. Ça vaut n'importe quoi, entre 50 et 60 millions d'euros. Des broches, la reine, moi c'est assez mon truc, je pense qu'elle en a au moins 250. Hein. Alors toutes n'ont pas cette valeur, mais la collection de bijoux d'Elisabeth II, ça vaut des centaines de millions d'euros. La collection de timbres, ça vaut des centaines de millions d'euros, ou des dizaines, je ne sais pas. C'est très compliqué. Comment voulez-vous évaluer le patrimoine d'une femme qui possède 250 broches, 2000 tableaux ça n'a pas de sens. La seule manière, encore une fois, de quantifier ou de diminuer, cette fortune n'a fait qu'augmenter depuis des générations parce qu'il n'y a pas de droit de succession sur cette fortune. Elle est transmise intégralement, sans taxe, à l'aîné de la famille, à toutes les générations. Ben, ça grossit, ça fait des petits, c'est tout.
Qui en profite, par exemple, les tableaux, les timbres, exposés.
Elles prêtent beaucoup.
Oui.
Il y en a tellement. Oui. Il doit y avoir 10 000 tableaux.
Les tableaux sont exposés déjà à Buckingham Palace, qui ouvre l'été entre le mois de juin et la fin du mois de septembre. Elle organise des expositions à la Queen's Gallery, qui permettent de voir ces tableaux qui sont cachés. Le château de Windsor est ouvert au public également. Donc toute cette collection, en même temps, profite à la nation britannique et fait en même temps, le prestige de la monarchie britannique, qui attire beaucoup de touristes au Royaume-Uni.
C'est aussi une source de revenus. Philippe Moreau-Desfarges, la mondialisation pour les nuls.
On peut peut-être passer à la comparaison des monarques en Europe, puisque vous évoquiez ça, Fabrice Lannet.
Avec plaisir, mon cher Philippe, vos désirs sont des ordres. Hein. Oui, alors on va juste rappeler quand même, parce que là, on parle de la Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni, bien sûr, qui a aussi des rois et des reines, donc dans un certain nombre de pays voisins ou plus ou moins voisins de la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Espagne, et puis vous avez évidemment le Grand-Duché du Luxembourg, vous avez des principautés, Liechtenstein, Monaco, Andorre, voilà. Une Europe finalement faite de rois, de reines, de princes, de grands-ducs. Hein. Et quelque part, c'est admis, c'est accepté.
Beaucoup de ces rois, et même le roi d'Angleterre, sont conscients que ce sont des survivants. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les rois ont été balayés d'Europe, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, et je vous rappelle que quand Nicolas II a été capturé par les soviétiques, il y a eu des tractations entre le Royaume-Uni et la jeune Russie soviétique pour... éventuellement donner Nicolas II, transférer Nicolas II au Royaume-Uni. Et à l'époque, le roi d'Angleterre a dit non, moi je fais rien. Si vous voulez, ce sont des situations quand même, ils ont été très conscients que le boulet est passé près d'eux. Alors pour revenir à votre comparaison, je crois que malgré tout, l'Angleterre est très à part. La monarchie est très enracinée, et puis c'est une monarchie spectacle. J'ai envie de dire, en Europe, la seule autre monarchie spectacle, c'est Monaco. Monaco qui est... Mais les autres monarchies, soit sont des monarchies extrêmement bourgeoises et tranquilles, comme les Pays-Bas, la Suède, et puis il y a des monarchies qui savent que leur destin n'est pas assuré. Si vous prenez la monarchie espagnole sait très bien que l'avenir de cette monarchie n'est absolument pas assuré.
Qu'est-ce que ça recouvre, ce terme utilisé par Philippe Moreau-Desfarges de monarchie spectacle?
Je ne mettrais pas sur le même plan la principale Principauté de Monaco et le royaume britannique.
L'adoratrice de la famille royale britannique.
Voilà.
Pourquoi donc ?
Eh bien, par exemple, la monarchie britannique respecte des normes. La pompe et la circonstance. Vous avez un couronnement selon un protocole qui est écrit dans la tradition. À l'abbaye de Westminster, c'est une des monarchies qui remonte au 9e siècle. Ben, attention,
c'est 12e siècle pour les monégasques.
Oui, oui, mais c'est plus ancien, oui, quand même.
Ouais, bon.
Et surtout, la reine a un poids politique mondial. Elle nomme les ministres sur les recommandations de son premier ministre. Le premier ministre est le premier ministre de Sa Majesté.
Bon, ben, le prince de Monaco nomme également.
Oui, mais internationalement, le rayonnement du Royaume-Uni pays, la cinquième économie bien du
sûr,
monde.
Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Sophie. J'essaie de te défendre un tout petit peu Monaco, pays dans lequel j'ai résidé quelques temps à une époque.
Non, mais bien sûr, on ne peut pas comparer la monarchie britannique et Monaco. Néanmoins, ces deux monarchies ont le sens du spectacle.
Certes, et alors
il y a une gestion du spectacle par les Grimaldi qui est remarquable.
Oui. Alors, on peut contraster avec les monarchies scandinaves, qui sont les monarchies à bicyclette, qui sont beaucoup plus simples. Exactement. Et la monarchie britannique a essayé de simplifier son protocole et d'être plus proche du peuple. Et ce qu'on peut dire de la reine, quand même, c'est que si elle est si populaire, c'est parce qu'elle est proche des Britanniques, parce qu'elle va à leur rencontre, comme on l'a vu aujourd'hui à Windsor.
Selon un protocole très précis.
Bon, alors, ils ne sont pas tout à fait d'accord, Philémon Defarge et Sophie Loussoir, qui mériterait quelque part d'être reine un jour du Royaume-Uni. On verra. Vincent Mélan, essayez de ramener.
Alors, je donne un point à ma droite.
Merci beaucoup. C'est Philippe.
Non, Monaco est une monarchie tout à fait comparable en termes d'image, même internationalement. Regardez les Américains ou même les Lazis, ce que Monaco représente avec sa position sur la Méditerranée.
Le climat,
l'atmosphère, c'est tout à fait comparable au niveau du spectacle. En plus, j'ai tous envie de vous dire, lisez plus Point de vue, parce que toutes ces monarchies, vous allez les voir vraiment. Et je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire des monarchies à bicyclette, parce que regardez comment le roi de Suède, qui a 70 ans cette semaine, va fêter son anniversaire. Il y a 5 jours de fête. Le palais de Trottningholm, ça vaut très largement Buckingham Palace, c'est même encore plus beau. Le palais royal de Stockholm, c'est somptueux. Ils vont tous être en diadème, en robe du soir, et il y a 5 surbooms prévus partout dans Monaco, à Stockholm, pardon. Je pense que c'est très spectaculaire. Vous avez raison,
ils sont des Français. Et puis ils sont des Français.
En plus, ils sont des Français, ils sont des Bernadotte. Donc, c'est des héritiers.
D'un révolutionnaire.
En plus, c'est quand même les rois de Suède descendent d'un révolutionnaire qui s'était fait tatouer sur son bras. Mort au roi. Donc Jean-Baptiste Bernadotte, qui était un maréchal d'Empire de Napoléon.
Oui.
Mais c'est vrai que ces monarchies-là, qui restent, elles savent qu'elles sont tenues de faire du spectacle. Oui. On n'admettra jamais d'avoir une monarchie qui soit trop simple.
Oui, mais alors, pardon, Sophie Loussoir, faire du spectacle, bien sûr, mais ce qui n'empêche pas d'être proche de son peuple dans
bien
les
sûr.
Moments de
bien
douleur,
sûr.
De recueillement. Elle citait Sophie Loussoir, Elisabeth II, bien entendu, qui s'est montrée proche du peuple. Moi, j'ai encore le souvenir d'il y a un mois et demi, comment le roi Philippe, en Belgique, a pris la parole le soir donc de ces terribles attentats, donc à Zaventem, et puis dans le métro de Bruxelles, Vincent Mélan.
Absolument, et regardez ce qui s'est passé en Espagne quand il y a eu les attentats à la gare d'Atocha. Le roi et la reine étaient là en permanence. Regardez, la meilleure manière dont une famille royale s'est montrée proche de son peuple, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le roi et la reine d'Angleterre sont restés en permanence. Et vous savez, c'est la fameuse phrase de la reine-mère Elisabeth qui, lorsqu'on avait bombardé le palais de Buckingham, avait dit « Je suis très contente qu'on ait bombardé la chapelle. Du coup, ça va me permettre de regarder les gens de l'East End dans les yeux quand je les verrai. » Parce que nous aussi, on a été bombardés. Ils n'ont pas bougé d'un cil. Donc, mais la faiblesse du système, et c'est sans doute ce à quoi vous faites allusion par moment, c'est qu'il suffit d'un être humain moins doué que les autres pour que ça pêche.
Regardons en Espagne, dans ces pays, partout, le monarque joue un rôle de stabilisateur politique.
Oui.
Jusque quand?
Jusque là. Mais prenez l'histoire de Juan Carlos d'Espagne, qui, heureusement, qui a sagement abdiqué. Ça a été un remarquable roi. Et notamment, il a arrêté un coup d'État. C'était vraiment
1980,
il a fait une bêtise. Il est allé chasser. Il était faire un safari. En plus, je crois qu'il a eu un accident pendant le safari. Et ça a été su de tout le monde. Et ça l'a obligé à abdiquer. Donc, si vous voulez, on voit une vulnérabilité.
Il y avait d'autres affaires.
Oui, il y avait d'autres affaires. C'est vrai que la monarchie britannique, alors là, je me contredis un peu, a une solidité que n'ont pas par la monarchie belge ou la monarchie espagnole. Vous savez, la monarchie belge, elle vit sur un pays qui est déchiré entre wallons et flamands, et c'est un rôle extrêmement difficile. Et où d'ailleurs le roi, a des difficultés même pour son propre financement.
Ça coûte combien les autres monarchies, les têtes couronnées? Est-ce que ça pèse aussi lourd que ce dont on vient de parler en Grande-Bretagne? On parle de centaines de millions, voire de milliards d'euros.
Mais faites la comparaison avec l'Espagne.
Oui.
Il y a des dépenses qui sont incompressibles.
Oui.
Le palais d'Orient, où se déroulent les réceptions de chefs d'État, où tous les présidents de la République sont accueillis par le roi d'Espagne, ça coûte sans doute beaucoup plus cher à entretenir que le palais de Buckingham. C'est colossal, c'est un petit Versailles au centre de Madrid.
Dans notre roi à nous, à l'Élysée aussi,
c'est
pareil.
Même plus loin. Imaginez que l'Espagne devienne une république, on ne va pas démolir le palais d'Orient pour arrêter de l'entretenir.
Non,
ça coûtera toujours aussi cher. Ça ne changera rien. Buckingham Palace, demain, la Grande-Bretagne est une république, le palais de Buckingham sera toujours entretenu.
Je veux dire, est-ce qu'ils ont autant temps de propriété, de terres,
non,
de revenus.
Parce qu'en fait, je reviens, alors vous allez croire que je suis obsessionnel, mais c'est mon côté fils de notaire et petit-fils de notaire, je vous raconte ma vie. En Espagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, on paye des droits de succession. Ah. Donc, c'est pas aussi simple de transmettre tout de la même manière. La grande force de la monarchie britannique, sa force financière, elle est liée au fait que George VI a été exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale et que du coup, au moment où Attlee est arrivé au gouvernement, le premier gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, on a acheté un voile pudique sur tout ce qui concernait les finances de la famille royale. On n'a pas demandé d'impôt de succession alors que tout le monde était égorgé par les impôts. On leur a pas demandé d'impôt sur le revenu. Tout a été supprimé. Et ils sont retrouvés dans une zone de non-droit. Le roi et la reine héroïque, on n'allait quand même pas leur demander de payer des impôts. Donc, c'est ça qui a permis. Et ça s'est passé aussi au temps de la reine Victoria. Quand la reine Elisabeth a été moins populaire, tout d'un coup, elle a payé. Là, il y a quelques années, on lui a augmenté ce qui était sa liste civile de 300%. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est ça, la force patrimoniale de cette monarchie.
Oui. Le retour de Sophie Loussoir.
Oui. Alors, la force patrimoniale de la monarchie britannique, hein, et puis la force, l'union qui existe entre les membres de cette famille. Oui. Alors, je crois que la reine a su, justement, unir sa famille. Alors, malgré les divorces de ses enfants, elle est très proche à la fois du prince Édouard et de Sophie de Wessex. Elle est très proche maintenant de la duchesse de Cornouailles, l'épouse du prince de Galles.
Elle est proche du prince de Galles ?
Oui, alors ça, vous savez, ça c'est un autre problème. Elle est très proche de sa fille, la princesse Anne, qui est très dévouée, qui a beaucoup d'actions caritatives
au
Royaume-Uni et aucune prétention au trône. Voilà. Alors, tout dépendra finalement de la manière dont le prince Charles saura assumer la succession.
Voilà. Alors, juste un mot.
Avec la maladresse qu'on lui connaît.
Pour terminer, justement, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'un des événements fondamentaux de l'année 2016, hein, qui pourrait être un événement fondamental si les Britanniques votent le Brexit. C'est le Royaume-Uni est en pleine campagne électorale maintenant depuis une semaine. Ouais. Philippe Moreau-Desfarge. Qu'est-ce qui pourrait survenir, advenir donc à ce pays ?
Il y a deux hypothèses. Soit le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, le Brexit, disons que ça calmera a priori les choses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un rapport très compliqué entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui fait que ce rapport est très difficile.
Quel que soit le résultat.
Exactement. Quel que soit le résultat. Quelque part, si vous voulez, même si le Brexit est rejeté, néanmoins, on sent que les Britanniques ont très envie de divorcer. Enfin, que il y a quand même ça. Bon, même si la City est contre. Alors, et c'est vrai. Alors, deuxième hypothèse différente, c'est que le Brexit l'emporte. Et là, évidemment, il y aura la question de l'Écosse qui va se poser. Et si vous voyez, c'est très impressionnant parce que il y a quelque chose de shakespearien dans cette situation. Le plus grand pays du monde, qui a fait le plus grand empire du monde, va peut-être se détruire autour de cette affaire européenne. Et c'est très intéressant. Si vous voyez, le Royaume-Uni qui a tout fait pour que l'Europe reste désunie, va se désunir à cause de l'Europe.
Allez, un mot chacun. Vincent Mélan, donc.
Je crois qu'ils n'ont jamais été dans l'Europe. Jamais.
Enfin, oui, ça,
oui, c'est
sur la monnaie, ils le sont
le
pas.
Tard, ils sont rentrés évidemment en 73 dans une communauté européenne qui était déjà constituée et donc ils n'ont pas eu le pouvoir d'influencer les institutions européennes. Et c'est le problème fondamental pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni voulait le libre-échange et était contre une union douanière. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas rejoint la communauté économique charbon-acier et qu'ils n'ont pas ratifié le traité de Rome. On leur
ils l'ont pas signé, le traité de Rome.
Oui, ils l'ont pas signé.
Non, ils ne pouvaient pas ratifier.
Non, mais ils ne l'ont pas signé, oui.
Vincent Mélan.
Non, je pense que de toute façon, en plus, on sort du cadre de la monarchie. Moi, je pense qu'on se fait, beaucoup de psychodrames sur cette histoire de l'Europe. L'Europe, il faut qu'elle soit souple et qu'elle évolue.
Mais
les Anglais ont envie d'en sortir.
C'est fini.
Ils en sortent.
Et alors, le bon côté aussi de cette demande de réforme de David Cameron, c'est que finalement le Royaume-Uni essaye de faire évoluer les institutions européennes et je crois que c'est pour le bien de l'Union européenne.
Allez, Sophie Loussoir qui nous accompagnait pour cette première partie des décodeurs de l'écho, spécialiste de la constitution britannique, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Vincent Mélan, il est rédacteur en chef à Point de vue, donc, l'hebdomadaire des têtes couronnées, puis bien d'autres choses, hein, l'hebdomadaire qui sort donc tous les mercredis. Le numéro d'hier, c'était l'immense douleur, donc, de Bernadette Chirac et de Jacques Chirac, donc évidemment après la disparition de leur fille la semaine dernière, Laurence, et puis Philippe Moreau-Desfarges, La mondialisation pour les nuls, hein, en livre de poche, chercheur à l'IFRI, et très bientôt un samedi matin, donc à 8h pour Good Morning Weekend à la radio sur BFM Business dans un instant. Jusqu'où ça va aller cette surenchère, donc Fnac, Conforama qui essaie de mettre la main sur Darty. Il y a eu 5 surenchères depuis hier soir, du jamais vu, à tout de suite. Hein.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.